and welcome to the evening show on your radio, our daily live show broadcasting from Monday to Friday at 6 p.m. I'm your host, Morgana Nex, and joining me in the studio on this Thursday, the 27th of January, is my co-journalist, Marius Renaudet. And so together, we're back with you for another hour of European news, initiatives, and music. Now, on to today's program, we're of course going to inform you on all the hot topics of the day with the news bulletins of 6 and 6:30, bring you the latest hits from our unique radio playlist, as well as a cultural and political conversation with today's special guest. Earlier this month, our reporter Marius Renaudet indeed had the pleasure to conduct an interview with François Querelle, an archaeologist specialized on the Parthenon, this famous former temple on the Acropolis in Athens, Greece, where they talked about the Greek government's lobbying for getting all the Parthenon marbles that are now indeed dispersed in various museums in Europe restituted to Athens. So the first part of the interview is coming up in around 15 minutes. For now, let's turn our eyes on the European headlines of the day, because this is Europe in Focus, our daily news segment brought to you in French by our journalist Marius Renaudet. Bonsoir Marius.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Euradio, le journal, Marius Renaudet.
À la une de l'actualité en ce jeudi 27 janvier, l'Angleterre qui met fin à la majorité de ses restrictions anti-Covid, la grippe aviaire qui frappe de plein fouet l'Europe et l'UE qui tente de défendre la Lituanie face à la Chine. Face à la pandémie de coronavirus, les Britanniques libérés des mesures de restriction. Le Premier ministre Boris Johnson l'avait annoncé la semaine dernière. Plus besoin en Angleterre depuis ce matin de porter un masque en intérieur dans les lieux publics ou encore de présenter son passe vaccinal lors des événements accueillant beaucoup de personnes. L'objectif du gouvernement britannique, habituer la population à vivre avec le virus. L'isolement obligatoire en cas de test positif devrait quant à lui être levé en mars. C'est en tout cas ce qu'espère Boris Johnson. Les agriculteurs européens à nouveau victimes de la grippe aviaire. Près d'un millier d'exploitations sont actuellement touchés par ce virus animal et c'est l'Italie qui est au centre des préoccupations du secteur. Près de 300 foyers ont été détectés dans le pays et 18 millions de volailles ont été abattues depuis le mois d'octobre. À titre de comparaison, en France, depuis le mois de novembre, c'est 2,5 millions de volatiles qui ont dû être tués pour endiguer l'épidémie. Ils font vivre l'Allemagne et sa langue en hexagone. Les établissements du Goethe-Institut, l'équivalent allemand de l'Institut français, ont pour ambition de renforcer les liens entre les peuples grâce à la culture et à l'enseignement. Notre journaliste allié Hugo Noirteau a rencontré Nicolas Heller, directeur France du réseau Goethe-Institut.
Si vous regardez dans un pays, normalement il y en a un, dans les grands pays, 3, 4, mais là vraiment je pense en France vous avez le réseau le plus dense dans le monde, parce qu'au-delà des 6 instituts, il y en a encore 2 antennes à Strasbourg et à Marseille. Donc en tout, on est présente dans 8 villes, ce qui crée un réseau avec une grande densité. Pour comparer cela avec les États-Unis, il y en a 5 seulement aux États-Unis. Donc voilà, ce qui souligne aussi l'importance de la France. Mais je veux dire, on a une vision aussi, pas seulement nationale, hein, on travaille avec un esprit, je dirais, très européen. Donc il n'y a pas juste nos relations bilatérales qui comptent, mais vraiment le travail en réseau aussi entre les différentes nations et les différentes régions où sont présents des Goethe-Instituts, parce que c'est ça qui est important pour nous derrière, c'est vraiment cet échange international un peu partout dans le monde, certainement de l'Allemagne vers le monde, mais aussi entre ces différents pays, ça nous tient très à cœur.
Des propos recueillis par Hugo Noirteau pour Euradio. La Commission européenne attaque ce jeudi la Chine devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Dans le viseur de Bruxelles, les pratiques commerciales discriminatoires de Pékin à l'égard de la Lituanie. Depuis un an maintenant, les entreprises lituaniennes subissent un boycott de la part des autorités chinoises. En 2021, la Lituanie a quitté le forum 17+1 qui réunit la Chine et des pays d'Europe Europe centrale et orientale et a donné son feu vert à l'ouverture sur son sol d'une représentation diplomatique de Taïwan. Un positionnement qui n'a pas plu au parti unique de Xi Jinping. Et puis on clôture ce journal avec la 34e édition du festival Premier Plan qui récompense les premiers films, longs et courts-métrages des réalisateurs européens. Près de 100 films sont projetés dans 7 catégories depuis lundi et jusqu'à la fin du week-end. Claude-Éric Poiroux est le fondateur d'Europa Cinéma, aujourd'hui délégué général et directeur artistique du festival. Thomas Rocher a essayé de définir avec lui ce qu'est le cinéma européen.
Le cinéma européen, c'est effectivement pas toujours facile à définir. Aujourd'hui, on se rend compte quand même que la constitution d'un univers européen, c'est pas quelque chose d'évident. En même temps, c'est quand même assez simple. Moretti, c'est un Italien, Ruben Östlund, Peter Refn, Almodovar, les Français, il y a beaucoup, Audiard, les Dardennes. Bon, alors ça, c'est déjà une catégorie de gens qui sont déjà arrivés, mais quand même, hein, qui marque quand même le cinéma européen, qui montre que le cinéma européen peut avoir une dimension au niveau de l'impact, de la reconnaissance, et mondiale. Hein, tous ces réalisateurs-là sont connus dans le monde entier. Moi, je me souviens, j'avais été le producteur du premier film d'Olivia Sayas, qui s'appelait Désordre. Il n'était pas connu, son film n'était pas non plus fait avec des grandes stars, c'était son premier long-métrage. Je me souviens qu'il était invité, je sais pas, dans 40-45 festivals dans le monde. Il pouvait faire un tour du monde en faisant un premier film européen. Donc il avait été repéré, donc il faut avoir confiance. Hein. Le cinéma européen est vu quand même dans le monde entier, avec quand même des yeux qui sont très très attentifs. Donc aujourd'hui, il faut avoir confiance en ça.
Claude-Éric Poiroux au micro de notre envoyé spécial à Angers, Thomas Rocher.
Euradio, la météo.
Dans votre ciel européen, demain, nouvelles averses de neige dans les pays baltes et en Ukraine. Du verglas est encore à prévoir sur les routes slovènes. Et pour les autres, le soleil dominera, même si les nuages risquent de l'éclipser au fil de la journée. Côté Mercure, il fera moins 1 demain matin à Athènes et 11 en seconde partie de journée. À Moscou, comptez moins 10 dans la matinée et moins 8 l'après-midi. Et à Bordeaux, votre métropole radio, journée nuageuse demain. 1 degré le matin et 9 l'après-midi.
Merci beaucoup Marius pour ce résumé des actualités du jour et de la météo de demain. Je vous propose maintenant une petite pause musicale avant de retrouver à 18h15 notre première partie d'interview avec François Quérel, archéologue de l'école pratique des hautes études à Paris, qui nous parlera du conflit sur la restitution des marbres au Parthénon entre le gouvernement grec et britannique notamment. En attendant, voici donc tout de suite Balourdio, Fortune en français, par l'artiste portugaise Maria Reis. Bonne écoute.
Como é que fazes da vida à tua estância? Onde é que foste buscar o vinho que me deste a beber? A máquina da força nunca sai da selva. A cabra quando morre nunca mais se lembra. Para que é isso? Deixa para usar a mesma roupa. É casual, é como uma ervilha que me custa a comer. Labrigo, quem te salva é da mesma cena. Larica desgraçada, nunca mais.
That was Balurdio by Maria Reis on New Radio. You're still listening to The Evening Show, your daily hour of news, music and culture here on New Radio. We're now going to give you a second track before the first part of our guest of the day. So here's Island by singer-songwriter and harpist Emily Kahn. It's a folky single where the artist sings about a broken love story after which she just wants to disappear to an island in exile, hence the title. So here's Island by Emily Kahn on your radio. Hope you enjoy.
I'm no better than all the rest, but you told me I was special. Shouldn't have said I was special at all. So I've given it thought, I should just go away to
listening to Island by Canadian artist Emily Kahn. It is now 6:15 p.m. time for the first part of our interview of the day with François Quirel, an archaeologist from the École Pratique des Hautes Études, who earlier this month told us all about the ongoing conflict between the Greek and mainly British government on the restitution of the Parthenon marbles to the Acropolis in Athens. It was conducted in French by my co-journalist Marius Renaudet, so let's now listen into the first part of the interview.
François Quirel, bonjour.
Bonjour, Marius Renaudet.
Vous êtes archéologue et directeur d'études à l'École pratique des hautes études et votre spécialité, c'est le monde grec. On va revenir ensemble sur le conflit séculaire qui oppose Londres et Athènes, sur la question de la restitution éventuelle des marbres du Parthénon qui sont détenus en partie par le British Museum. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez redonner le contexte à nos auditeurs? Comment cela, finalement, se fait-il que la majorité des marbres décoratifs de l'Acropole, en tout cas les plus beaux, aient été expédiés vers l'Angleterre?
Oui, c'est une affaire déjà de plus de deux siècles. C'est en effet au tout début du 19e siècle, même en 1800 exactement, que Lord Elgin, qui a d'ailleurs donné en anglais son nom aux membres du Parthénon, parce qu'il les a largement, pas tous, mais très largement emportés à Londres, c'est là qu'il est passé à Athènes et qu'il s'est dit à ce moment-là que sa collection pourrait s'enrichir, pas forcément à bon compte, parce qu'il va dépenser beaucoup d'argent, mais pourrait s'enrichir sur place à Athènes. Et évidemment, le Parthénon, qui était donc le monument principal sur l'Acropole, avait été dévasté au XVIIe siècle, en 1600, même 87, si on veut être très précis, lors d'un siège par les Vénitiens de cette citadelle, qui était alors occupée par une garnison ottomane, une garnison turque. Donc, en 1800, Elgin a toutes les autorisations voulues de l'Empire ottoman, qui s'est rangé du côté de la Grande-Bretagne, et il va envoyer une expédition qui arrive l'année suivante, commandée par un Italien, pour emporter le maximum de sculptures de l'Acropole. Il réussit de ce point de vue-là, bénéficiant en effet de sa fonction d'ambassadeur auprès de la Sublime Porte à Constantinople. C'est le nom évidemment du palais du sultan. Il réussit à obtenir une autorisation qu'il interprète à son profit. Et ce firmant, cette autorisation est importante parce que l'original a disparu, n'a pas été retrouvé. Et on ne la connaît que par une traduction en italien qui évidemment peut prêter à discussion, parce que cette traduction a été faite sur les ordres d'Elgin. Et de ce point de vue-là, la petite expédition qu'Elgin envoie à Athènes va être très active, va commencer par enlever tout ce qu'elle peut, essentiellement du Parthénon, mais il y a également une cariatide, vous savez, ce sont ces statues qui supportent, qui servent de support, statues colonnes.
Pour l'Érechtheion.
Voilà, pour l'Érechtheion, qui est le deuxième grand monument de l'Acropole. Donc, toutes ces sculptures sont embarquées et partent pour Londres. Il se trouve que Lord Elgin avait épousé une riche héritière qui lui permettait évidemment de financer ses entreprises et les relations entre les deux se dégradent. Ils en viennent à un divorce, si bien que Lord Elgin se tourne dans les années 1816 vers le gouvernement anglais pour essayer de vendre sa collection, refaire de l'argent, vous voyez. Donc il y a une série de négociations qui vont durer quelques temps et qui vont se conclure en 1818 par l'achat aux frais du gouvernement anglais de la collection d'Elgin pour enrichir le musée britannique, le British Museum à Londres. Et bien évidemment, le gouvernement anglais ne veut pas acheter des biens illégalement acquis. Donc il attache une importance particulière aux garanties et notamment à cette autorisation d'enlever les marbres pour éviter le problème de restitution qui se pose depuis le début. Et finalement, il estime que ces sculptures ont été prises tout à fait légalement et que l'autorisation est valide.
Et si on revient au XXIe siècle, vous l'avez dit, désormais les marbres sont la propriété du British Museum. Depuis plusieurs années, les gouvernements successifs grecs multiplient les tentatives pour récupérer ces marbres. Pensez-vous que l'on soit en bonne voie pour une restitution ?
Alors, tout dépend dans ces négociations, évidemment, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect qu'on pourrait dire passionnel, Et de ce point de vue-là, la chose est bien engagée du point de vue de la Grèce, qui a essayé depuis longtemps de récupérer ces marbres. Et le symbole même de cette passion, c'est Mélina Mercouri, vous savez, l'actrice bien connue qui a été ministre de la Culture à Athènes après la chute des colonels. Et Mélina Mercouri déclarait qu'elle espérait vivement voir le retour de ces marbres du Parthénon et qu'elle était sûre même de les voir, puisque même si elle était morte, elle ressusciterait quand il reviendrait. Vous voyez, il y a donc un aspect très passionnel de ce point de vue-là, une expression très vive qui dénote évidemment un grand attachement du point de vue grec. Alors, du point de vue anglais, il y a aussi un aspect qui est lié à des relations entre États, puisque le British Museum est quand même l'équivalent pour Londres du musée du Louvre. Et il y a eu là une évolution, donc du point de vue de la Grande-Bretagne. Dans un premier temps, c'est en tant qu'État que la Grande-Bretagne refusait le retour de ces marbres, ce qui, du point de vue des Grecs, est conçu comme une restitution. Mais actuellement, le Premier ministre anglais en fonction, Boris Johnson, rejette la responsabilité, si l'on peut dire, de la chose au British Museum. Il dit que ce n'est pas l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire du musée britannique, du British Museum. Bon, là, il y a un petit peu, vous voyez, un double jeu, si l'on peut dire.
Et en même temps, le British Museum relance l'affaire en disant non, c'est à Boris Johnson de trancher.
Voilà, il y a donc en gros et de manière très caricaturale, si l'on peut dire, une sorte de patate chaude que ni l'un ni l'autre ne veut prendre entre les mains, vous voyez. Donc ça, c'est un peu l'aspect, évidemment, tout à fait anecdotique de la chose, mais c'est un élément qui entre en compte. Alors, du côté grec, pendant longtemps, on avait dit le musée de l'Acropole, qui était sur l'Acropole, sur une petite partie même de l'Acropole, est tellement plein que à quoi vous servirait-il d'avoir des sculptures que vous ne pourrez même pas exposer au public? Et de ce point de vue-là, la Grèce a voulu bien montrer qu'elle avait les espaces nécessaires et a été construit un musée destiné à accueillir d'une part tous les objets, dont la plupart étaient en réserve, du petit musée de l'Acropole, donc assez grand, et ayant d'autre part des espaces suffisants pour récupérer, pour exposer les sculptures dont la Grèce demandait le retour. Et de ce point de vue-là, il faut bien reconnaître que c'est, pour la muséographie, un musée bien conçu, tout neuf, en contrebas de l'Acropole. C'est un argument pour dire nous avons les espaces nécessaires maintenant pour exposer les originaux qui sont remplacés dans cette exposition par des moulages.
Et vous, à titre personnel, en tant que chercheur, quelle est votre position? Le modèle de la restitution ne fait pas toujours consensus, y compris au sein de votre profession. Quel est votre point de vue là-dessus?
Oui, alors, il y a plusieurs approches possibles. Vous voyez, il y a une approche qui est de dire, après tout, ces objets, qu'ils soient à Londres ou qu'ils soient à Athènes, sont exposés à la vue du public. Donc, en gros, qu'on aille à Londres ou qu'on aille à Athènes, on verra les mêmes objets, les mêmes sculptures, et peu importe, ils sont conservés, vous voyez, ils sont pas mis en danger, ils sont à l'abri, et ils sont en même temps visibles par les spectateurs. Donc, d'un point de vue, si on peut dire, de tierces personnes, c'est un petit peu équivalent. Puisque dans les deux cas, on est en Europe. Bon, c'est un peu plus compliqué maintenant pour aller à Londres, vous voyez. Donc, à la limite, pour des raisons pratiques, on irait peut-être plus volontiers les voir à Athènes, même si c'est un peu plus loin de la France. Donc, ça, c'est un point de vue totalement indépendant de l'aspect juridique. Alors, il y a évidemment un aspect juridique, c'est-à-dire, est-ce que le bien a été bien acquis ou bien mal acquis? Et là, de ce point de vue-là, il n'y a pas, je pense, prescription, vous voyez. Mais en ce qui concerne, disons, les sculptures du Parthénon, se pose quand même le problème de la légalité de cette vente sous deux aspects. D'abord, l'aspect de la Grèce qui était un pays occupé, évidemment. Donc là, légalement, l'Empire ottoman avait la possibilité d'autoriser cet enlèvement, je crois, même si ça peut choquer éventuellement. et en particulier en Grèce. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est que même d'un point de vue très étroit, le document qui atteste que l'opération, qu'on réprouve bien évidemment, parce que priver un bâtiment de ses sculptures, même si le bâtiment est en mauvais état, c'est tout de même à éviter. Donc, d'un point de vue strictement légal, il faudrait tout de même que ce document, ce firmant, qu'on puisse retrouver une preuve que la version originale correspond bien à la traduction qui a été faite par des soins d'Elgin.
Et donc, si c'était le cas, vous seriez pour que les marbres restent à Londres, si je vous suis bien.
Si c'était le cas, d'un point de vue strictement juridique, il y aurait au moins un élément de preuve, vous voyez. On pourrait discuter après la question, mais actuellement, il faut bien dire que le titre de propriété pose de gros problèmes.
That was François Querelle from the École Pratique des Hautes Études with Marius Renaudet. I hope you learned as much as I did from this interview and that you stay tuned for the second part of it starting in around 10 minutes. Because in the meantime, we'll have some more music as well as a second news point for you coming up in the evening show. And I propose you to listen to Intiukana by the multicultural London-based Chant Électronique, which self-defines it as, I quote, an international collective of musicians brought together to explore the potentialities of ancient singing tradition and electronics. The group also distinguishes itself for its multilingualism, as this track, for example, is sung in Aymara, a language spoken by around a million speakers in the Bolivian Andes. So here's Intiukana by Chant Électronique. Hope you enjoy. Écoutez Intiukana par Chant Électronique, un groupe multiculturel basé à Londres. Et nous en sommes déjà à la moitié de notre émission. Au programme de la prochaine demi-heure sur The Evening Show, nous allons bien sûr vous apporter encore plus de musique, la deuxième partie de notre interview du jour, et aussi un résumé de l'essentiel des informations du jour. En effet, il est 18h30, l'heure du Flash Info avec Marius Renaudet.
Radio, le Flash, Marius Renaudet.
Les Britanniques libérés des mesures de restriction anti-Covid. Le Premier ministre anglais Boris Johnson l'avait annoncé la semaine dernière. Désormais, plus besoin au Royaume-Uni de porter un masque en intérieur dans les lieux publics ou encore de présenter un pass vaccinal valide lors des grands événements. Avec cette mesure, le gouvernement britannique espère habituer sa population à vivre avec le coronavirus. Boris Johnson veut aussi lever l'isolement obligatoire en cas de test positif à l'horizon du mois de mars. Au Danemark, les restrictions sont également en train d'être levées. Ces annonces interviennent alors que la vague Omicron déferle toujours sur le continent européen. L'Italie, quant à elle, allège ses restrictions pour les voyageurs européens. Plus de quarantaine obligatoire à réaliser après son arrivée sur le sol italien. En contrepartie, les ressortissants des autres pays membres de l'UE devront présenter un pass vaccinal à partir de mardi prochain. L'objectif de cette mesure est avant tout économique. Il s'agit de relancer le secteur touristique malgré l'épidémie de SARS-CoV-2 qui se poursuit. Le Covid-19 a fait plus de 143 000 victimes en Italie depuis début 2020. Et du côté du régulateur européen, la pilule anti-Covid de Pfizer, le Paxlovid, vient d'être approuvée ce jeudi. L'Agence européenne du médicament fait donc de cette nouvelle arme contre la pandémie le premier médicament antiviral à avaler, autorisé au sein de l'Union européenne. Les États-Unis, le Canada et Israël ont déjà donné leur feu vert au traitement de Pfizer ces dernières semaines. Pente glissante pour le gouvernement grec. En début de semaine, d'importantes chutes de neige se sont abattues sur les pays de l'Est de la Méditerranée, à commencer par la Turquie et la Grèce. En Grèce, justement, elles ont créé un véritable chaos, notamment au niveau des services publics et sur les axes routiers. Mardi et mercredi ont été déclarés jours chômés à titre exceptionnel. Cette situation mouvementée est à l'origine d'une véritable polémique sur la gestion de crise par les différents ministères, poussant le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis à s'exprimer hier soir, avec comme ambition d'éteindre l'incendie politique provoqué par son gouvernement. Et à la une de l'actualité également, la grippe aviaire qui sévit encore en Europe. Près d'un millier d'exploitations sont actuellement frappées par ce virus animal. Et c'est en Italie que les agriculteurs sont le plus exposés. Plus de 300 foyers ont été détectés dans le pays. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité du jour. Je vous laisse entre de bonnes mains avec Morgane Annex.
Merci beaucoup Marius pour ce résumé des actualités du jour en 2 minutes 30 top chrono. Et nous allons donc vous réentendre dans quelques minutes pour la deuxième partie de notre invité du jour que vous avez réalisé plus tôt ce mois avec François Kerel, archéologue spécialisé sur le conflit des marbres du Parthénon entre le gouvernement grec et britannique notamment. Mais avant cela, je vous propose une autre pause musicale qui vous amène à nouveau au Portugal, cette fois avec un morceau hip-hop. Voici donc Ready par le groupe Oreia Negra et avec la voix de l'artiste Agarota Now. Bonne écoute. It's taken a long time for me to get here, but I feel like I'm ready. Turn to the person on the other side of you, say, you don't know the preparation I've been through, but in this season of my life, I feel like I'm ready. E tu estás from behind, estarás pronto para ver como é que a cor da batida fica na mulher. Ela não é santa, só um santo para o ser. Como é que esses argumentos servem para bater? Cala esses demônios, já te podes perdoar. Não levantes essa mão se não for para lutar. Por um dia mais claro, por um tempo mais doce, não trocava um abraço pela joia que fosse. O tamanho da minha saia é inverso a essa cobardia. Se não aguentas a mulher que tens, é porque te fica em demasia. O tamanho do sorriso dela não precisa de autorização. A liberdade é um barco à vela e o amor não é uma prisão. Liberta logo esse ciúme amargo, porque o ciúme deixa o homem. Yeah. were back. That was Ready, a song in Portuguese by Oreia Negra and featuring the voice of artist Agarota Nao. You're still listening to The Evening Show, our daily live program, bringing you your daily dose of news, culture and music. And we're now about to listen to the second part of the interview with François Querelle, conducted in French by Marius Renaudet.
On a parlé beaucoup du British Museum, des gouvernements, mais quelle est l'opinion des archéologues britanniques? Au niveau de la population, on a eu un récent sondage, il y a un peu plus d'un mois, à la fin du mois de novembre, qui disait finalement que 59% des personnes sondées en Grande-Bretagne se disaient prêtes à restituer les marbres. Au niveau de vos collègues, quelle est la position?
Alors, je pense que du point de vue du British Museum, c'est toujours pour un musée très dur de restituer une partie de ses collections. Mais si les arguments sont assez forts, dans ce cas-là, l'administration du musée, les conservateurs comprennent parfaitement la situation. Vous voyez, même en France, vous pouvez penser aux biens qui ont été confisqués ou achetés à bas prix au moment de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, ils sont répertoriés dans les musées avec une cote particulière, un numéro particulier. Et si les héritiers des juifs qui ont été spoliés dans ces conditions se présentent, et ont des preuves suffisantes, évidemment, parce qu'il ne suffit pas de dire ce tableau appartenait à mon grand-père qui a été déporté. Il faut aussi pouvoir le prouver, donc ça c'est une difficulté. Eh bien, le tableau lui est rendu, et en général, la famille, les héritiers, le mettent en vente. Là, c'est différent, bien évidemment, si ces sculptures étaient rendues. Du point de vue de leur conservation, on n'aurait pas d'inquiétude. Les sculptures seraient conservées, seraient simplement exposées dans un autre endroit que celui dans lequel elles sont exposées actuellement. Donc, d'un point de vue général, il n'y aurait pas de différence fondamentale. Donc, je comprends parfaitement, évidemment, que des conservateurs anglais conservateurs au sens de conservateurs de musée, vous voyez, pas au sens politique. Personne chargée de conserver les objets dans un musée soit très mécontent ou regrette cela, mais il faut bien dire que si on se place en dehors de la situation précise qui implique évidemment un attachement aux objets du musée dont ils sont chargés de faire la conservation, ces sculptures ne courraient, en dehors évidemment du transport où il peut toujours y avoir des difficultés, mais aucun risque. Il n'y aurait aucune difficulté.
Et dans la perspective d'une éventuelle restitution, la Grèce a proposé plusieurs compensations à l'Angleterre, y compris de faire un troc d'œuvres, en tout cas de façon temporaire. Est-ce que cette solution est adaptée?
Alors, il existe en effet des solutions où le musée qui remet des objets en garde la propriété. Vous voyez, les objets sont mis en dépôt. Mais il suffit de penser à l'exposition actuelle qui est présentée au Louvre sur la Grèce moderne. Le très grand tableau qui est à l'entrée vient d'Athènes, du musée de la ville d'Athènes, et représente l'ambassadeur de France au XVIIe siècle, envoyé par Louis XIV, qui est, avant l'explosion du Parthénon, devant l'Acropole en arrière-plan, vous voyez, à Athènes. Et ce grand tableau, qui mesure peut-être 5 mètres de large, très haut aussi, se trouve appartenir au musée de Chartres. Et le musée de Chartres l'a mis en dépôt au musée de la ville d'Athènes, il y a un assez grand nombre d'années, et là, il faut bien dire que la mise en dépôt est une manière de mettre à la disposition des visiteurs à Athènes un tableau qui n'avait pas du tout été commandé pour Athènes, vous voyez, qui n'avait aucun rapport même avec la ville, mais dont le sujet est lié à l'histoire de la ville. Donc une mise en dépôt qui peut être temporaire, ce tableau n'est pas forcément mis en dépôt éternellement. Ça peut aussi se concevoir, le musée gardant la propriété. En ce qui concerne les sculptures qui sont au British Museum, le problème de la propriété, comme je vous l'ai dit, c'est que l'origine de la propriété n'est pas vraiment extrêmement sûre. Donc la solution de la mise en dépôt paraît un peu difficile parce que la propriété est toujours contestée. En revanche, on aurait pu penser à d'autres possibilités, des expositions itinérantes, c'est aussi possible, mais il y a dans cette affaire, finalement, ce problème du bien dont les Grecs pensent qu'il est mal acquis. Mal acquis à la fois moralement, parce que le pays était occupé, mais légalement, c'est quand même une autorisation, si elle existe, qui était légale. Et mal acquis aussi, parce qu'il faut bien dire que le titre de propriété est faible.
Le 3 janvier, de nouveaux fragments du Parthénon ont rejoint la galerie qui est dédiée au monument dans le musée de l'Acropole. Ils étaient jusqu'ici détenus par le musée archéologique d'Athènes. La Grèce progresse donc finalement dans son idée de rassembler les fragments du Parthénon, même si elle arrive à obtenir gain de cause avec le British Museum, avec l'Angleterre, il restera toujours quelques fragments qui sont un peu dispersés dans les différents musées du monde, notamment en Europe et notamment au Louvre, qui dispose de quelques fragments de métopes notamment. Est-ce que finalement c'est souhaitable que tous les fragments se rejoignent dans ce musée, selon vous en tout cas ?
Du point de vue du visiteur, disons que les fragments qui ont rejoint actuellement le musée de l'Acropole sont très peu nombreux et assez peu, voyez, importants en quantité et même en dimension. Il y a un pied, il y a des petits éléments. Alors, il est évident que l'histoire du monument, à partir du moment où il a été bombardé donc par les Vénitiens au moment de la guerre entre Venise et l'Empire ottoman, l'histoire de ce monument, qui est devenu ruiné, a été marquée par un certain nombre de départs de fragments. Et il y a ainsi les troupes vénitiennes, les mercenaires qui étaient à leur service, ont emporté des débris qui étaient tombés et qui n'étaient pas aussi importants que ce qu'a emporté Elgin. Il faut peut-être remettre les choses en perspective. Dans une guerre, il y a très souvent, en effet, des soldats, des généraux qui se servent et qui emportent quelques débris quand ils peuvent, qui rejoignent leur collection. Mais en l'occurrence, ce ne sont pas les principaux. Les principaux ont été emportés de manière systématique par Elgin pour enrichir sa collection. Il y a donc un effet de masse, le retour d'un certain nombre de fragments qui sont moulés, donc ce n'est pas la même impression. Bon, de rajouter le pied, voyez, d'Artémis sur un fronton ou sur une, en l'occurrence, c'est sur la frise continue, le visiteur ne va pas y faire tellement attention. En revanche, quand vous avez sur une frise de 160 mètres de long, qui est la longueur de la frise continue, la majorité des plaques qui est sous forme de boulage, cela frappe les yeux. Donc, du point de vue de la vision, c'est évidemment préférable de réunir au même endroit l'ensemble des fragments connus. Mais du point de vue de la diffusion, de la connaissance du monument, on peut parfaitement concevoir que des fragments moins importants, qui ne posent pas forcément les mêmes problèmes de propriété, restent dans les musées. Et là, c'est le cas précisément des fragments dont vous parlez pour le musée du Louvre. Pour le musée du Louvre, c'est un autre ambassadeur avant Elgin qui a aussi utilisé ses fonctions d'ambassadeur auprès de la Sublime Porte, donc de l'Empire ottoman, auprès du sultan, qui s'appelait Choiseul Gouffier, et c'était avant la Révolution en France, qui avait envoyé des émissaires pour enrichir sa collection de certains fragments pour lesquels il avait obtenu une autorisation qui était en bonne et due forme. Donc là, il n'y a pas ce problème de propriété, et il n'a pas enlevé ces fragments en place sur le monument. C'était des fragments qui étaient tombés. La grande différence, parce qu'Elgin, il a vraiment opéré sur un monument qui conservait ses sculptures, il les a fait enlever et il les a sciés quand il n'y arrivait pas. Enfin, ça a été vraiment une sorte de massacre à la tronçonneuse, passez-moi l'expression, qui avait d'ailleurs suscité l'indignation d'un de ses compatriotes, le poète Byron, qui a consacré des vers, mais de manière extrêmement forte, sous le titre de « Malédiction de Minerve ». Vous voyez, Minerve, qui est le nom latin de la déesse Athéna, Et il montre Elgin qui est victime de la vengeance d'Athéna. Voyez. Il n'y a pas dans les autres fragments la même volonté, disons, de s'emparer du maximum, et surtout, quand ce sont des fragments qui sont tombés, le bâtiment n'a pas été affecté de la même manière. On n'a pas fait sauter des parties pour enlever des sculptures.
Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Je vous remercie.
Je le rappelle, vous êtes spécialiste du Parthénon. Vous avez d'ailleurs réédité votre livre « Le Parthénon, un monument dans l'histoire » en 2020 aux éditions Barbilla.
And so that was the second part of our interview of the day with François Querelle, which of course you can find online or on our website, uradio.fr, in case you missed some parts or just want to listen to it again. It is now 6:48 p.m. and so we're now going to enter the last more musical 10 minutes of the evening show, starting with another multilingual track, this time mixing French and Japanese lyrics. Les Pyramides Cosmiques is thus a feel-good funk track from the latest album, Une Histoire d'Amour Brésilienne by Commandant Cousteau, which was only released this month. We'll see you back just after the break. This is Pyramide Cosmique on The Evening Show.
Yeah.
les pyramides cosmiques by Commandant Cousteau on Euradio. You're still listening to the evening show, which will be with you till the end of the hour for some more news, music and culture. We're now immediately going to propose you another track, this time stemming from the Swedish rock scene. It actually already figured in our European Artist of the Week section by Suzanne Gell, which, by the way, I dearly invite you to check out. So this is All My Fears by Shit Kid on Euradio. Just been listening to All My Fears by Swedish artist Shit Kid on Euradio. It is now 6:56. We're closing into 7 p.m. and with it the end of the show, but we still have some time left for one track. And I'll propose you a militant and politically engaged song by a Lithuanian guitarist and producer Viktor Diawara, better known under his artist alter ego Afrodelic. It's called Le Temps est venu, Time Has Come. For what, you might ask now? Time for justice and equality for racism to finally end, answers the artist. Le Temps est venu was produced against the background of the Black Lives Matters movement that has recently reignited. The associated video of the song notably features a lot of footages from the Bristol protest, which became famous after protesters tore down a statue of the 17th century slave merchant Edward Colston. So this is Le Temps est venu, a combination of Afrobeat rhythm and electronic sounds by Afrodelic on Euradio.
Avec les mots, pour t'engager comme il le faut, de te choisir des priorités, de trimer de tout.
That was Le Temps est Venu by Afrodelic on your radio, which I'm afraid already marks the end of today's show. We'll be back with you tomorrow, same time on your radio for our last edition of the week. In the meantime, you can of course find all of our episodes online on our website and usual music streaming platforms. As always, I can only say a big thanks to the team behind this show, Marius Renaudet for the news and tech director Elie for the sounds. That's all from us for now. I wish you all a lovely evening.